débat, Nicolas Dose sur BFM.
Faut-il sauver les grandes écoles? C'est le titre de l'ouvrage de Pierre Vels qui est publié aux presses de Sciences Po. Il est ancien directeur de l'école des Ponts, également avec nous dans ce studio Michel Rabeau qui est directeur délégué de l'HEC et Arnaud Tessier, président de l'association des anciens élèves de l'ENA. Alors Pierre Vels, vous dites quand même très clairement la France prend du retard. Vous avez vraiment le sentiment, parce que au regard du classement du Financial Times qu'on évoquait à l'instant, HEC est en tête, c'est pas un site de retard, surtout que ça fait 3 ans que ça dure. Et alors là, vous parlez effectivement plus des écoles d'ingénieurs, on prend vraiment du retard dans le domaine des technologies de la formation.
Je pense qu'on a un manque à gagner. Hein, je pense que les écoles, du point de vue de la formation des ingénieurs, ça marche plutôt bien, et ça marche même bien. Le French Engineer est très apprécié hein, par les entreprises non seulement françaises, mais internationales. En revanche, le fait d'avoir cet émiettement des forces, fait que, globalement, on n'a pas la capacité stratégique qu'on devrait avoir dans un certain nombre de nouveaux domaines. Je prends un exemple.
Hein. Allez-y.
Vous voyez aujourd'hui des perspectives très passionnantes qui s'ouvrent à l'interface entre tous les mondes classiques de l'ingénierie et puis la biologie et la médecine. Ça va depuis, vous savez, quand vous allez dans une salle d'opération aujourd'hui, on ne sait plus si c'est un chirurgien ou des ingénieurs, enfin il y a de la techno très très lourde partout. Voilà des domaines que les écoles d'ingénieurs devraient être capables de prendre en charge. C'est ce qu'ont fait par exemple nos amis de l'école polytechnique fédérale de Lausanne, hein, qui a été créée il y a un siècle sur le modèle de centrale, mais qui aujourd'hui est 5 ou 10 fois plus grosse. Ils ont une capacité stratégique, y compris en termes financiers, hein, peut-être même d'abord en termes financiers, qui est d'identifier ce sujet-là, parmi d'autres, on pourrait parler de l'énergie, il y a beaucoup d'autres sujets, comme un sujet vraiment stratégique pour l'avenir, non seulement de la science, mais de l'économie, du business dans nos pays, et ils y vont, ils créent de nouveaux instituts, etc. Comment voulez-vous qu'une école d'ingénieurs aujourd'hui, de la taille des ponts, des mines, de l'X, de Centrale, soit capable de faire ça? On n'a absolument pas les moyens de faire ça. Si on se groupait, on aura les moyens.
On a à peu près 400 X par an, c'est ça, un truc comme ça.
Oui, c'est ça.
Et une centaine du côté des mines et des ponts.
Oui, enfin, 100 à l'entrée, un peu plus à la sortie, parce qu'on se débrouille pour avoir des étudiants étrangers, etc. Vous voyez, pour faire masse, mais ça n'est pas, on n'est pas à l'échelle. On aurait des écoles, par exemple, qui délivreraient par an. Moi, je pense qu'il ne faut pas des monstres, hein. Il n'y a pas besoin d'être très, très gros. Mais on aurait le diplôme d'ingénieur par an, c'est-à-dire en gros deux fois et demi l'X ou Centrale aujourd'hui. Ça changerait déjà la dimension des institutions et ça permettrait à ce moment-là d'avoir des grands projets technologiques et scientifiques, pas seulement en matière de formation, mais en matière de recherche, qu'aujourd'hui on n'a pas. Donc on a beaucoup de matière grise, mais elle est très mal utilisée.
On a une vision, Pierre Vels dénonce aussi la sélection sur les maths. Vous parlez de ça, vous dites que c'est absurde aujourd'hui. La sélection sur les maths, c'est toujours aussi vrai qu'à votre époque et qu'à la mienne même.
Pour résumer un peu brièvement, là, non, je ne dis pas que c'est absurde, je pense que c'est un des atouts.
Excessif. Hein.
Non, c'est excessif, oui. C'est-à-dire, je pense que c'est un des atouts des ingénieurs français aujourd'hui d'être très très fort en maths. Maintenant, il faut avoir une conception un peu plus ouverte, hein, un peu moins rigide, un peu moins coincée, je dirais même, de ce que c'est que l'excellence. Quand vous prenez Harvard aujourd'hui, qui est numéro 1 au classement mondial de Shanghai, et d'ailleurs aux autres classements aussi, ils en sont d'ailleurs très conscients, hein, je peux vous dire. Ils recrutent sur des critères beaucoup plus variés que nous. Hein. Ils ont d'ailleurs, en plus, leur politique, c'est de dire qu'il faut qu'on ait les meilleurs profs du monde, si possible les meilleurs étudiants, mais surtout les meilleurs profs. Nous, on a une vision extrêmement rigide quand même de ce que c'est que le super bon étudiant. Donc, c'est vrai que la place des maths est probablement excessive dans la formation, en tout cas le monopole des maths, voilà, c'est ça que je conteste. Continuer à faire des maths de haut niveau, c'est très très bien, mais c'est un paradoxe, puisque à l'origine, c'était la méritocratie, on recrutait sur les maths pour ne pas recruter sur l'origine sociale, mais aujourd'hui ça converge, bizarrement.
On peut rentrer à HEC, Michel Rabeau, si on n'est pas bon en maths
voulu comme critère fondamental.
Vous êtes d'accord, Pierre Vels, avec ce descriptif de l'HEC 2007 hein?
Oui, je ne connais pas suffisamment HEC pour... Non, mais c'est vrai que de manière générale, dans le système français, on a une focalisation sur les maths qui sont plus d'ailleurs un outil de sélection. Hein, c'est l'outil de sélection numéro un, plus qu'un outil de connaissance. Hein, parce que ce n'est pas forcément le meilleur moyen d'accéder à une connaissance aujourd'hui diversifiée. Par exemple, on devrait faire davantage, je trouve, de physique, de chimie, de sciences naturelles, de biologie, des choses comme ça, dans la plupart des écoles d'ingénieurs. Donc c'est vrai qu'on a une obsession des maths. Alors, par exemple, on a on a ouvert beaucoup de cursus internationaux avec des doubles diplômes dans les écoles d'ingénieurs françaises. Une grande difficulté, c'est que les meilleurs étudiants de nos meilleurs compétiteurs internationaux, qui sont souvent mieux classés que nous à Shanghai, n'arrivent pas à suivre nos cours parce que le niveau de maths est trop élevé. Donc là, on se dit, il y a quelque chose qui ne va pas.
Vous souriez, Michel Rabeau, en écoutant ça. Vous acquiescez par le sourire?
Oui, évidemment. Mais on est dans une spécificité française, une force extraordinaire.
Pierre Vels, vous lirez.
Oui, puis les mathématiques, c'est aussi une forme de culture. C'est-à-dire que l'image du monde vue par les mathématiques, c'est qu'on a des problèmes bien posés avec des solutions uniques. Quoi. Et même pour les ingénieurs, c'est jamais comme ça dans la vie réelle. Hein. On a des problèmes mal posés, confus, avec de multiples solutions. Et les mathématiques, c'est très utile, mais ça n'est pas toujours à résoudre ce genre de problème.
Alors, au final, vous dites qu'on a Vels.
Bon, je pense que, encore une fois, le problème clé, il y a des problèmes du côté de la formation, mais le problème clé, c'est la structure. C'est-à-dire qu'il faut la première chose à faire, quand même, c'est de regrouper. Il faut absolument regrouper les écoles pour avoir des ensembles de taille internationale.
Comme ce qu'on fait les écoles de commerce de Tours et Poitiers, par exemple.
Oui, par exemple, il faut le faire à plus grande échelle, je pense. Hein. Aujourd'hui, il y a un projet, par exemple, qui s'appelle ParisTech, j'ai eu l'honneur de présider ce groupement. Il regroupe une dizaine de grandes écoles franciliennes. Je pense qu'il faut vraiment avancer là-dessus. D'ailleurs, ça avance. Hein, mais peut-être un peu trop lentement quelquefois. Donc il faut absolument acquérir cette taille. Je pense qu'il faut avoir il faut diversifier aussi le recrutement de nos professeurs. Ça c'est très important. On n'a pas parlé jusqu'ici, mais on a un corps enseignant qui est incroyablement franco-français dans les écoles d'ingénieurs, hein, peut-être moins dans les écoles de commerce. On est très provinciaux hein, dans nos recrutements. Il faut bien dire. Il y a des raisons techniques à ça, mais il n'y a pas que des raisons techniques.
Ouais, la provincialisme fascinant.
Voilà. Et puis je pense qu'il faudrait avoir des formes de recrutement qui sans baisser le niveau. Je dis clairement, je suis élitiste, je suis contre le micro-élitisme, vous voyez, c'est ça, c'est ou un élitisme rigide. Voilà, mais il faut essayer d'avoir des très bons étudiants, mais de profils un peu plus variés. L'internationalisation est un des moyens de réussir.
Ouais. Carvel s'écrit qu'il y a un goût des hiérarchies dans notre milieu d'esprit de caste, un petit peu dans ces grandes écoles, le provincialisme que vous évoquez. Alors c'est vrai qu'il y a quelque chose de frappant, si on regarde la composition des grandes entreprises du CAC, on va trouver Polytechnique, HEC, ENA, IEP et École des Mines, très, très bien représentées, majoritaires, hein, toutes les cinq évidemment. Il y a aussi quelque chose d'assez étonnant lorsqu'il y a des nominations dans notre pays qui sont des nominations à un assez haut niveau. On va d'abord dire que le type il est énarque, ou qu'il est X-mine, avant de se poser la question de savoir ce qu'il a fait. Il a 55 ans, il a une vie professionnelle colossale derrière lui. Non, c'est au début, on va nous rappeler son pédigré de formation, comme si c'était d'abord ça qui était essentiel pour l'avoir choisi, ou telle administration, ou telle entreprise. Ça donne effectivement l'image d'un certain retard français de voir la manière dont on écrit le curriculum vitae de personnalités qui sont à l'âge mûr et qui accèdent à des très hautes responsabilités. Est-ce qu'il faut toujours s'accrocher à ces vieux réflexes, Pierre Vels? C'est frappant quand même. Hein.
Oui, c'est très frappant, mais je pense que ça va changer. Je pense que ça va changer.
Si on disait ça à Steve Jobs, il ne comprendrait pas.
Oui, c'est ça. Mais je pense, vous savez, je pense que ça va changer parce que c'est l'internationalisation qui va changer les choses. C'est déjà commencé d'une certaine façon. Hein. Parce que ça, si vous voulez, moi je pense que ces grandes écoles, elles sont vraiment des produits de l'écosystème franco-français qui ont bien fonctionné pendant les 30 Glorieuses et un peu au-delà. Donc on a. Moi, je dis les écoles d'ingénieurs sont des super cabinets de recrutement du CAC 40, et c'est très bien, et ça marchait comme ça, sauf qu'on n'est plus dans le même monde. Et dans ce monde, vous savez, maintenant, regardez même la composition des directions de nos grandes entreprises, même françaises,
ça
commence à changer fortement. Et donc, je pense qu'on va relativiser tout naturellement ces hiérarchies franco-françaises, et tant mieux, parce que c'est vrai que parfois, c'est un peu pathétique de voir des gens qui, à 60 ans, vous expliquent encore qu'ils ont raté l'oral de l'X parce qu'ils avaient une grippe ce jour-là, quoi. Je veux dire, c'est triste, quoi. Mais je crois que c'est en train de changer.
Arnaud Tessier n'est pas totalement convaincu du changement. Il pense quand même que l'ENA a encore de boulot devant elle.
Non,
c'est pas ça que je pensais. Je pense que on est plus hypocrite à l'étranger, et que quand on regarde les très grandes universités américaines ou britanniques, l'effet de caste, croyez-moi, il y est assez développé. Et la référence aux études, alors c'est fait de manière plus sournoise, c'est plus hypocrite parce qu'il n'y a pas cette symbolique qui est autour des grandes écoles en France, mais vous savez, c'est pas pareil. Cambridge et Oxford sont de très grands ensembles universitaires, mais on y trouve des effets de caste et demeurent de grandes écoles. Donc je crois que c'est un problème humain qui ne touche pas que les grandes écoles. La française, ça se voit plus dans le système français, parce qu'on a ce système qui est très visible, parce que c'est la République qui l'a mis en place de manière très ostentatoire, c'est notre côté français. Mais en réalité, l'élitisme et l'ultra-élitisme, il est présent dans tous les systèmes de formation du monde entier, mais souvent sous des formes plus hypocrites.
Avec une énorme différence, c'est que les anciens d'Oxbridge, ils sont quelques milliers par an, alors que les inspecteurs des finances et les membres et les X-Men, ils sont un tout petit nombre. Ça change beaucoup de choses. Hein, je veux dire, c'est bien sûr l'élitisme est très fort aussi aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, un peu partout. Mais ce n'est pas des micro-élites. Moi, ce que je critique, c'est ce côté micro. C'est très différent comme mécanisme. Vous savez, d'être 10 ou 3 par promotion par an, ça, alors là, ça monte à la tête, quoi. Inévitablement, enfin, il faut être bien constitué pour rester sobre par rapport à ça. Alors que, bon, bah, vous êtes ancien d'Oxford, de Cambridge, de Harvard, etc. Vous êtes conscient de votre valeur, mais c'est quand même un réseau autrement plus large.
Allez,